Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision spécial Noël, nous aurons King Quest 7, Iron Lord, Doraemon, Dorabian Knight, Mario Kart Advance, Miss Pac-Man et Galaga 20e anniversaire, et la deuxième partie de la démo Amiga d'Andromeda, intitulée Sequential, bienvenue sur Rétrovision. Aussi heureux de vous retrouver, chers rétro-gamers, rétro-gameuses, sur ce dernier épisode de l'année 2010, avec comme à chaque fois, durant cette période, nous vous avons concocté un numéro spécial Noël. Et pour commencer, comme le veut la tradition, c'est un point and click féerique qui ouvre ce réveillon de pixels avec le magnifique King Quest 7 de Sierra, sorti en 1994 sur CD-ROM PC. Ce septième volet de la grande saga des King Quest nous propose d'incarner alternativement Rosella de Daventry, fille du roi Graham, et Valanis, toujours de Daventry, mère de cette dernière. Pour résumer vite fait l'histoire, les deux femmes devront trouver la sortie du monde parallèle dans lequel elles ont été malencontreusement téléportées après avoir plongé dans un ruisseau. En plus d'être séparées dans ce monde étrange, elles devront mettre en échec les plans machiavéliques de la sorcière Malicia. L'aventure est répartie sur un total de 6 chapitres, et le principe est de faire interagir certains éléments du décor par l'intermédiaire de l'icône en forme de baguette magique. Celle-ci se mettra à scintiller dès que vous pointez un objet ou un personnage spécifique. L'action la plus appropriée est directement effectuée d'un simple clic, ce qui simplifie à l'extrême la manière de jouer. Vous aurez ainsi remarqué qu'il n'y a aucune icône représentant les actions regardées, parlées ou utilisées. Sur le plan visuel, rien à dire. King Quest 7 est de toute beauté. L'animation générale est très bien foutue, même si on peut lui reprocher quelques lenteurs. Excuse me, Mr. Cook. Cet épisode bénéficiait d'un doublage français remarquable, collant fort bien au personnage, sur un ton saugrenu appréciable, faisant passer au second plan les musiques parfois insipides qui nous accompagnent tout au long de l'aventure. On peut dire que ce septième épisode de King Quest change radicalement par rapport aux 6 autres qui l'ont précédé. Outre le côté dessin animé faisant penser au monde de Walt Disney, c'est bien son humour enfantin omniprésent qui lui collera le plus à la peau au vu des connaisseurs de la série. Mais cela reste quand même un excellent point and click très dépaysant. Oyez, oyez, braves gens, l'armée ennemie menace notre belle contrée. Toute personne sachant tenir une épée et accessoirement la manier est la bienvenue pour bouter ces sauvages hors de nos terres. Voilà comment nous pourrions résumer l'histoire moyenâgeuse d'Iron Lord. Vous êtes un preux chevalier vivant dans un château en ruine et vous devez parcourir le territoire afin de convaincre les différentes factions qui s'y trouvent de manière à ce qu'elles rejoignent la résistance. Pour vous adjoindre les bonnes grâces des chefs de guerre, vous devrez accomplir diverses missions, comme retrouver un objet ou pratiquer des épreuves d'adresse ou de force, genre tir à l'arc et le bras de fer. D'ailleurs, l'épreuve du bras de fer est d'une difficulté abominable. Nombreux sont ceux qui ont brisé leur joystick en essayant de remporter cette épreuve. Damien DS peut en témoigner. Ces épreuves permettront de prouver à tous que vous êtes un chef né, capable de mener une armée vers la victoire. Mais vos ennemis n'attendront pas patiemment que vous réunissiez vos troupes. Ils vous enverront régulièrement un assassin afin de se rappeler à votre bon souvenir. Les duels à l'épée se déroulent à la première personne. Il faut, comme dans un quick time event, appuyer au bon moment sur la touche, tout en orientant le stick vers la bonne direction pour parer et attaquer. Lorsque vous jugerez que votre force défensive est suffisante, vous pourrez vous mesurer à l'armée ennemie sur le champ de bataille. Là, vous aurez le droit à une vue de dessus légèrement plongeante où il faudra faire évoluer vos unités jusqu'à ce que l'une des deux armées soit anéantie. Graphiquement, Iron Lord ne paye pas de mine, mais il possède suffisamment d'atouts pour satisfaire les amoureux des épopées chevaleresques. Et voici Doraemon Nobita no Dorabian Knight sur PC Engine, édité par Hudson Soft en 1991. Sous son apparence de gros matou bleu sans oreilles, Doraemon est en réalité un robot venu du futur, envoyé par les descendants du petit garçon Nobita Nobi. Il devra aider Nobita dans sa vie de tous les jours en lui redonnant confiance en lui, et ainsi éviter qu'il accumule de nombreuses dettes que ses descendants doivent encore payer. Très peu connu en Occident, ce personnage jouit d'une notoriété énorme au Japon que l'on peut qualifier de culte. Vous contrôlez Doraemon à travers de nombreux niveaux aux couleurs chaleureuses et très flashantes, restituant parfaitement l'univers de l'anime. Grâce à sa machine à voyager dans le temps, l'aventure vous propose des univers riches et variés, cela va de la Chine à la préhistoire, en passant par le monde des mille et une nuits. Ce CD-ROM visait essentiellement un public très jeune, les moins de 10 ans. Ici, tout était réuni pour plaire aux petits-enfants japonais. Graphisme apaisant, personnages trognons, musique rigolote, mais surtout la prise en main est ultra facile, avec une difficulté spécialement dosée pour l'occasion. pas de violence non plus. Pour attaquer les ennemis, Doraemon dispose d'un pistolet paralysant ainsi que d'autres accessoires éparpillés dans des cachettes faciles d'accès. De plus, les moyens de récupérer de l'énergie sont nombreux en déterrant des espèces de radis blancs. Les niveaux sont entrecoupés de petites épreuves à la manière d'un PC Kid, permettant de récupérer quelques bonus. Ce platformer typiquement nippon est très attachant. Il permet aussi de se familiariser à l'univers de Nobita pour ceux ou celles qui ne le connaîtraient pas encore. À l'approche des merveilleuses fêtes de Noël, Rétrovision vous propose une sélection d'idées cadeaux plus ou moins rétro. Que diriez-vous d'un magnifique flipper dans votre salon ? C'est madame qui va être contente. Voici par exemple Street Fighter 2 ou encore celui de Demolition Man qui sont à vous pour la somme ridicule de 3 780 €, sans les taxes bien sûr et les frais de transport. On continue avec quelques slot machines, S-L-O-T ou machines à sous. La plupart des modèles présentés se jouent avec des jetons et non avec des pièces de monnaie. On peut trouver des modèles variés, certains sont à rouleau, d'autres sont un peu plus sophistiqués comme le Gundam ou le Gamera qui nous viennent tout droit du Japon avec carrément des écrans LCD incrustés dans la machine. Autre idée sympathique, pourquoi pas un bon vieux baby-foot, comme on pouvait en trouver dans les cafés. Beaucoup plus abordable, puisque vous en avez à tous les prix, tout dépend après de la qualité des matériaux. Un magnifique jukebox, qui a troqué ses bons vieux vinyles par des CD, valeur à neuf, 4 900 €. On finit cette sélection idées cadeaux avec la borne Miss Pac-Man et Galaga 20e anniversaire qui est à vous pour la modique somme, si je puis dire, de 5 600 €. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de la voir tourner vers la fin de cette émission spéciale Noël. Voilà pour cette rubrique idées cadeaux et si vous en avez trouvé un parmi cette sélection, espérons que vous avez de la place sous le sapin. Chaque console Nintendo, excepté la NES, a eu le droit à sa course de karting mettant en scène les célèbres frangins Mario et Luigi Bros. Tout le monde connaît le principe de cette simulation de course, ceci étant, il faut tout de même savoir qu'il est le troisième de la série sur Game Boy Advance sorti en 2001. Mario Kart Advance reprend le même principe que la version Super Nintendo, avec le choix parmi 8 pilotes, 3 cylindrés et 3 modes de compétition, Grand Prix, course rapide et contre-la-montre. Petite différence tout de même par rapport à la version Super Famicom. Les 8 personnages sont classés en 3 catégories, léger, moyen et lourd, avec chacun leurs caractéristiques en vitesse, accélération et tenue de route. Et comme on ne change pas une formule gagnante, c'est avec joie que l'on retrouve les fameuses options bonus, matérialisées sous la forme de champignons, d'étoiles, de bananes ou de carapaces vertes et rouges, bien pratiques si vous vous situez en fin de peloton. Autre option spécifique à la GBA, le mode multijoueur direct avec les fameuses batailles et le multijoueur indirect en se faisant passer les cartouches dès qu'un chrono a été amélioré ou en échangeant ses ghosts qui sont comme des reconstitutions des meilleurs temps effectués sur une course. Mario Kart Advance n'a rien à envier à ses prédécesseurs. Au contraire, on sent bien dans cette version GBA le désir de retourner aux courses de simulation de karting avec des tracés plus courts, sans fioritures et donc plus dynamiques, ce qui convient parfaitement pour une console portable. Au nom de toute l'équipe, nous avons le plaisir et l'honneur de vous annoncer qu'il y a un article de 2 pages sur Rétrovision dans le fabuleux MOOC Pix & Love, 15e numéro. Vous y découvrirez comment Rétrovision a vu le jour, ses influences, son évolution, ainsi que tout un tas d'anecdotes sur l'une de vos émissions rétro gaming préférées. Alors si vous avez encore un petit peu de place sous le sapin, ou tout simplement si vous vous intéressez à l'histoire des jeux vidéo, n'hésitez pas à vous procurer un exemplaire du Pix & Love numéro 15. Il arrive encore parfois de nos jours d'être agréablement surpris au détour d'une salle de jeu. Si vous êtes un vieux gamer ou tout simplement un amateur de bons jeux, votre attention sera portée sur cette bande d'arcade un peu spéciale, puisqu'elle réunit 2 énormes classiques du début des années 80, Miss Pac-Man et Galaga. Sortie en 2000, la borne avait pour but de célébrer les 20 ans de ces 2 jeux mondialement connus de l'éditeur Namco. Nous pouvons voir en ce moment la joie d'un ancien joueur d'arcade, Eric Etoutouille pour ne pas le nommer, qui retrouve ses 10 ans en essayant de battre mon score sur Galaga en 1 crédit. Un petit mot aussi pour signaler la robustesse du contrôleur résistant à toutes les ardeurs. Heureusement que je lui ai rafraîchi un peu la mémoire en lui disant que son vaisseau pouvait être capturé et récupéré par la suite pour avoir un double tir. A l'inverse, dans Miss Pac-Man, Eric Etoutouille m'a rappelé que l'on pouvait prendre les couloirs pour se retrouver de l'autre côté du labyrinthe. Mais quoi qu'il en soit, le score est sans appel, que ce soit sur Pac-Man ou Galaga, le vétéran a pris le dessus sur l'élève. Miss Pac-Man fut créée par la société américaine Midway en 1981 et non par Namco, comme on pourrait le croire. En effet, Midway a récupéré les droits et l'a modifié pour le commercialiser comme la suite de Pac-Man. La popularité du jeu a convaincu Namco d'adopter Miss Pac-Man comme le second épisode de la série. Le concept demeure identique à Pac-Man, mais il se différencie de l'original en introduisant un personnage féminin, soi-disant pour attirer la gente féminine, mais bon. Ainsi que de nouveaux tableaux et des fantômes au déplacement en partie aléatoire, forçant ainsi le joueur ou la joueuse à comprendre les comportements des fantômes pour déjouer leur approche. Galaga est un shoot'em up, toujours développé par Namco et commercialisé en 1981. Il s'agit de la suite de Galaxian. Le joueur contrôle un vaisseau spatial qui peut seulement se déplacer de gauche à droite au bas de l'écran. Galaga est le premier jeu d'arcade permettant à un seul joueur de jouer avec 2 vaisseaux simultanément après s'être fait capturer. C'est aussi le premier à comporter des niveaux bonus appelés Challenging Stage entre les niveaux. Avant de vous laisser avec la 2e partie de la démo Amiga d'Andromeda, Un petit mot pour vous dire que Rétrovision va faire une pause hivernale car nous changeons de matériel durant le mois de janvier. Ce qui signifie que le prochain épisode sera prévu pour mars 2011. D'ici là, toute l'équipe vous souhaite un merveilleux Noël avec plein de cadeaux rétro, si possible. Rendez-vous donc en mars 2011, toujours avec Rétrovision.